En de noir, deuxième partie, et je vais commencer par vous parler d'un deuxième coup de cœur. Quand je dis deuxième coup de cœur, c'est tout simplement que dans notre précédente émission, la première de la saison, nous avions eu la chance de retrouver Romain Saucombe pour un superbe roman, et le roman dont je vais vous parler, Hérétique, a quelques similitudes avec Leonardo Padura, le livre dont je vais vous parler, pardon, ça c'est l'auteur, donc Hérétique. Un roman de Leonardo Padura qui est paru il y a à peu près un mois chez Métayer. C'est un livre traduit par Elena Zayas. Et pour l'introduire, je vais donc utiliser une phrase de Romain Saucombe que j'ai trouvée très très belle, qui convient et à l'un et à l'autre des romans. Sans liberté, l'âme meurt. Sans l'âme, il n'y a pas de justification à la liberté. Et je dirais qu'à un moment donné, cette phrase convient à chacun de ces personnages. Autre citation, et là on part directement dans le roman de l'écrivain cubain, « Ils n'avaient d'autre choix que de résister comme des survivants. » Leonardo Padura, il présente son personnage Mario Condé. Alors Mario Condé, c'est un personnage récurrent, c'est un détective privé qui est devenu chasseur de livres, une espèce de bibliophile. Il récupère des bibliothèques et il les revend à d'autres, et il tombe toujours sur des drames. Et il se souvient de comment enquêter. Donc, Mario Condé, il est donc à la Havane. Leonardo Padura, comme son personnage, sont cubains. Et dans cette phrase, il n'avait d'autre choix que de résister comme des survivants. Il y a les deux mots-clés de ce roman. Résister, survivre. Ainsi, en 1939, c'est à ce moment-là que le roman commence, à la Havane, on a un enfant, Daniel Kaminski, qui voit le SS Saint-Louis, donc c'est un bateau, s'éloigner avec un peu plus de 900 juifs à son bord. À son bord, il y a aussi ses parents, sa sœur. Une espèce de bateau fantôme, rejeté par tous, parce que ces juifs étaient venus chercher la liberté en 1939 à Cuba, mais après ils ont aussi été rejetés par les États-Unis et par le Canada. Et donc les voyageurs finiront pour la grande majorité, après 1939, dans les camps de concentration, en revenant à leur point de départ. Résister, justement, choisir sa vie, être libre de pratiquer l'art de la peinture et des portraits. Quand on appartient à la communauté juive très pratiquante d'Amsterdam, cette nouvelle Jérusalem, et là on n'est plus en 1939, mais on est en 1643. Deuxième personnage de Leonardo Padura, Elias Ambrosius. Le destin, son destin déchiré entre sa religion, sa famille et le désir de devenir l'élève du plus grand. À l'époque, Rembrandt. Peindre des portraits ferait de lui un hérétique. Mais, en somme, Dieu n'a-t-il pas créé l'homme pour qu'il ait un libre arbitre, pour choisir sa voie sans la contrainte et la pression des dictateurs de la pensée? Autre personnage, et là je vais reciter ces deux mots, résister, survivre, tel un fantôme à la Havane, en ce début du XXIe siècle. Un personnage, une très jeune femme, une très jeune fille, Judy, qui choisit donc, dans ce Cuba en proie à la misère, où les jeunes n'ont aucun choix d'avenir, de rejoindre une bande, une tribu. On appelle ça les emo, emo pour emotional en anglais. Je cite, « Il n'y a plus rien en quoi on puisse croire, ni de messie à suivre. La seule chose qui vaille la peine, c'est de militer dans la tribu que tu te choisis librement. » Pour relier tous ces personnages, un fil conducteur qui lie ses destins inexorablement, c'est un petit portrait de Jésus, signé Rembrandt, un petit portrait aux traits tellement humains. Ce portrait, il aurait pu sauver la famille Kaminski en 1939. Ce visage tellement humain qui ressemble tellement à Elias Ambrosius. Et ce tableau qui a mystérieusement réapparu dans une salle des ventes dans les années 2010, le fils de Daniel Kaminski, qui est exilé à Miami, revient dans la capitale cubaine demander de l'aide à Mario Conde pour savoir comment ce petit tableau est réapparu. Que ce soit son enquêteur fétiche ou tout autre personnage, ils sont tous confrontés ici au problème universel des libertés individuelles et du libre arbitre. Comment, englué dans ses atavismes, ses croyances, voire sa famille, un homme peut revendiquer, un homme ou une femme bien évidemment, peut revendiquer des choix personnels, un tracé de vie, surtout lorsqu'il vit une période troublée de l'histoire. Mais des périodes non troublées, en est-il autrement? On retrouve le talent impressionnant de Leonardo Padura. Et celui-ci se garde bien de trouver une réponse. Et plutôt, il se permet de nous livrer une fresque romanesque autour d'un dieu au visage tellement humain. Voilà, c'est un roman ample, riche en émotions, où l'humour et la dérision ont toujours leur place, grâce, entre autres, à ce détective bibliophile qui est en gros le témoin de l'histoire cubaine d'aujourd'hui, Mario Conde. Voilà, donc je rappelle le titre de ce roman, ça s'appelle Hérétique.
Au pluriel.
Hérétique au pluriel, ça vaut pour beaucoup de ces personnages, et même pour les idées, mais pas forcément celles qu'on croit. C'est un roman de l'écrivain cubain Leonardo Padura, c'est paru fin août chez Métayer, et la traduction en a été confié à Elena Zayas, qui s'est d'ailleurs très bien acquittée de sa tâche. Voilà, Jacques, on part quelques années en arrière.
Quelques années en arrière, oui, avec un roman inédit de James M. Cain. Alors, vous le connaissez sûrement, c'est l'auteur du Le Facteur sonne toujours deux fois. Alors, James Cain est mort en 77. Alors, un inédit, eh bien, c'est possible. Alors, je vais vous dire tout de suite son titre. Ça s'appelle Bloody Cocktail, du moins en français. C'est publié aux éditions de l'Archipel et c'est traduit par Pierre Révignon. Alors en fait, c'est un inédit, mais c'est pas du tout un fond de tiroir. En fait, ça serait plutôt un fond de carton d'archives. L'éditeur américain Charles R. Hardet a eu vent de l'existence de ce polar, un polar achevé par James Cain avant de nous quitter, donc en 77, mais en fait jamais publié, puis oublié dans ses archives. La postface raconte très bien une autre enquête, celle de l'éditeur américain, pour retrouver parmi toutes les versions celle qu'aurait approuvée l'auteur, quitte à en utiliser deux ou trois pour en faire la version finale. Et le résultat est vraiment digne de ses précédents ouvrages. Alors un petit mot de l'histoire, qui se déroule dans les années 50, même si ce n'est pas véritablement précisé ou daté, mais par quelques détails, les voitures, le coût d'un repas, le coût d'un whisky ou d'un billet d'avion, nous donnent des indications sur l'époque où ça se passe. Donc, en fait, c'est une jeune femme qui s'appelle Joan, en fait, qui est soupçonnée d'être impliquée dans l'accident qui a coûté la vie à son mari. Alors son mari l'a battue, elle et son fils. Seulement, il était tout seul et complètement sous au volant de sa voiture avant de se prendre un pilier de pont. Pour le moment, malgré tout, rien ne peut étayer la thèse des policiers. Et comme elle doit désormais subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, qui entre-temps est placé chez sa belle-sœur, elle se trouve un job dans un bar à cocktail.
D'où le titre.
Un cocktail où ses atours fort avantageux seront pourvoyeurs premièrement d'excellents pourboires, mais aussi de l'admiration, disons, insistante de certains hommes qui fréquentent le débit d'Oise.
Une histoire universelle,
exactement. Elle va être au mieux avec deux d'entre eux. Un jeune, beau, prêt à tout, et un bien plus vieux, mais fabuleusement riche et impuissant. Qui va-t-elle épouser? Je vous laisse deviner. Non, je vous le dis, c'est White, le veuf, âgé, mais fortuné.
Ah, les femmes vénales et mercantiles.
Ouais. Alors, vous la saurez en lisant Bloody Cocktail. En anglais, le titre, c'est The Cocktail Waitress, donc la serveuse de cocktail. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé le titre en anglais, mais en français, mais bon.
Ah, oui, surtout qu'il est toujours en anglais.
Voilà, toujours en anglais, justement. Mais je peux quand même vous dire que tout ne va pas se passer simplement dans le meilleur des mondes. On est dans un James Cain. Et car notre monde et celui des 50s à l'époque étaient déjà pervertis par l'argent et par la réussite. Ce qui fait la force de ce roman, c'est qu'il est raconté par John elle-même, dans une sorte de confession. Du coup, on ne connaît que les faits de son point de vue, donc seulement ce qu'elle veut bien nous dire ou nous cacher. Coupable, provocatrice, manipulatrice, traîtresse, tout est possible, tout est imaginable. Parfois même, certaines fois, suggéré par la prose de John. Ce qui est sûr, c'est que James Cain nous a concocté une nouvelle femme fatale, malgré tout impossible à détester, et qui est tout à fait digne de la Cora du facteur sonne toujours deux fois. Il y a aussi un petit peu de la Mildred Pierce, un autre roman de James Caan. Elle, elle travaille dans un restaurant plutôt que dans un bar, mais elle aussi, elle travaille que et uniquement pour sa réussite sociale. Donc je ne saurais trop vous conseiller si vous n'avez jamais lu de James Caan.
Oui, parce qu'il faut dire, James Caan, c'est un des auteurs mythiques américains,
au côté
de
Jim
Thompson, mais toute littérature confondue. Ce sont des très grands romanciers. James Caan, vous en avez forcément entendu parler par les films.
Et voilà, surtout
voilà, le facteur sonne toujours deux fois. C'est Assurance sur la mort. Voilà. Le facteur sonne toujours deux fois, qui n'a
voilà,
pas vu une des versions.
Qui est passé sur Arte il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, si vous n'avez jamais lu James Caan, c'est le moment de vous plonger dans son univers. Et si vous en avez déjà lu, ben, je prêche quasiment des convaincus.
Un petit peu de musique ?
Un petit peu de musique. Alors, je ne sais pas si c'est du jazz ou du rock.
Mais enfin, c'est toi qui as choisi quand même.
On va dire que c'est du rock. Alors, c'est un jeune trompettiste de jazz italien qui s'appelle Luca Aquino. Il a été formé par Paolo Fresu. On va écouter un extrait de l'album qui s'appelle Rock 4.0, qui a été distribué uniquement en numérique. Et le trompettiste reprend des thèmes de rock célèbres, plusieurs des Doors, il y a aussi quelques-unes de ses compositions, et a aussi, ce qu'on va écouter maintenant, un des plus anciens titres de Neil Young, qui s'appelle Sugar Mountain, que certains ne reconnaîtront pas forcément tout de suite, mais dans un très bel arrangement.
Finir cette émission, moi je vais vous parler d'un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un roman qui s'appelle L'Ange Gardien. Son auteur en est Jérôme Leroy et ce titre est paru le mois dernier à la Série Noire chez Gallimard. Je suis en veine de citations dans cette émission, donc je vais commencer par une citation et non des moindres, j'ai choisi carrément Rimbaud. Moins haut sont des égouts, aux côtés rien que l'épaisseur du globe. Peut-être les gouffres d'azur, les puits de feu. C'est peut-être sur ces plans que se rencontrent lunes et comètes, mers et fables. C'est donc un extrait des Illuminations, et moi je trouve qu'il convient très bien au roman de Jérôme Leroy. En gros, comment décrire les égouts de la société actuelle en un récit pur, ciselé, instillant dans la fange des us et coutumes de nos politiques de purs moments de poésie qu'il connaît si bien. Il faut dire que Jérôme Leroy a aussi commis de très jolis recueils de poèmes. Et qu'il est un fan et un connaisseur de poésie. Trois personnages vont suivre à l'écrivain pour décrypter 25 ans de mœurs économico-politiques qui conduisent doucement, mais sûrement, l'extrême droite au pouvoir. Donc en gros, ce livre, il se situe un peu avant le précédent. Le précédent, c'était le bloc. On avait reçu Jérôme Leroy. On avait une très jolie interview de Jérôme Leroy à la sortie du bloc. Et le bloc, ça se situait, allez, peut-être après 2014, 2015. Malheureusement, l'extrême droite était aux portes du pouvoir. Et bien là, on est quelques années auparavant. Je ne sais pas, on peut te dire 80 2000, 80 2005. Voilà, donc... Vous pouvez lire les deux dans l'ordre, dans le désordre, comme vous voulez. Autre citation, et encore de Rimbaud, pour présenter l'un des trois personnages, Berthet. qu'est mon néant auprès de la stupeur qui vous attend. Il semble répéter cette phrase à l'infini, Berthé. Berthé, c'est l'une des plus fines gâchettes de l'unité. L'unité, un état dans l'état, qu'utilisent à loisir les gouvernements successifs, mais aussi les multinationales, les autres puissants, pour éliminer des gêneurs politiques, dans l'économie, dans les grandes multinationales, ou bien carrément de simples quidam, en gros pour mieux manipuler le peuple. Berthé, c'est une barbouze, mais une barbouze cultivée et épicurienne. Elle assassine, cette barbouze Berthé, assassine froidement hommes et femmes désignés par ses supérieurs. Et Berthé vieillit doucement, partirait certainement cultiver son jardin, si l'unité ne s'attaquait d'abord à sa protégée, car Diatou Diop, j'ai pris mon temps pour le prononcer parce que c'est pas évident, et puis surtout à lui-même, un contrat, il sent très bien qu'il y a un contrat qui pèse sur sa tête. Alors sa protégée, Cardiatou, c'est une réussite de l'école laïque et républicaine, une jeune noire issue de la banlieue, et actuellement, au début du roman, promis à un brillant avenir politique. Ou à une mort programmée, si ça peut servir les intérêts du pouvoir. Mais Berthé veille, et par amour, passe donc de mercenaire à ange gardien, d'où le titre du roman. Nous avons donc deux personnages, le lien entre les deux, celui qui fera connaître l'un à l'autre, l'autre à l'une, tout au moins qui les fera se rencontrer en un moment crucial du roman, c'est Martin Joubert, un écrivain de polar plutôt calamiteux, dépressif. En gros, cœur à gauche, porte-monnaie à droite, cerveau au service du porno soft qu'il écrit survivre pour se faire un petit peu de monnaie. Berthé va choisir Joubert pour dessiller les yeux des lecteurs, lui dictant ses mémoires à partir du moment où il aura compris qu'est-ce qu'on attend de lui et comment il va être éliminé. Et dans ses mémoires, il va dévoiler cet état profond, comme appelle Jérôme Leroy, en gros, les pratiques très crapuleuses de nos dirigeants. Joubert, c'est tout simplement aussi l'ex-prof de Cardiatou. Le monde est petit. Et en gros, le talent de Jérôme Leroy, bien grand, pour tisser habilement les relations improbables entre ces trois personnages. Et chacun d'entre eux a droit à sa narration particulière. Dure, tranchante, méthodique pour Berthé, presque incantatoire. Pour Joubert, elle se fait drôle, grinçante, cynique. On voit un petit peu le monde du polar d'ailleurs. Enfin, pour Cardiatou, c'est plein de tendresse, puisque l'on va découvrir ce personnage à travers les mots de l'homme qu'il aime. En gros, l'écrivain, il se fait un peu lanceur d'alerte et il nous livre un message, mais attention, sans l'assener, sans le marteler. Mais, tel le poète, il ne saurait oublier les bons moments de la vie. La lumière des îles grecques, le corps d'une femme, la saveur d'un côte rôti, ou encore, tout simplement, la texture de la couverture d'une édition originale de Georges Perros. Et puis, surtout, voir la mer. Et je terminerai en citant Jérôme Leroy, c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans une vie et dans une mort. Donc, à découvrir, Jérôme Leroy, l'ange gardien, à la série noire de Gallimard, et puis aller chercher le bloc aussi, un grand, grand roman qui, je crois, est ressorti en poche il n'y a pas si longtemps. Voilà, on arrive à la fin de notre émission, donc on va vous dire au revoir, chacun dans son coin, avec un bon bouquin.
À bientôt!